Merci d'écouter RFI, il est 15h ici à Paris, 2h de moins en temps universel, l'heure d'un nouveau journal avec vous, Antoine Gallen. Bonjour Antoine.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une, les opérations de secours en Birmanie se poursuivent après le puissant séisme qui a touché le pays et la Thaïlande voisine. Au moins 1700 morts et 3400 blessés. Les victimes piégées dans les décombres sont nombreuses et l'aide humanitaire européenne est bloquée pour cause de visa. On fait le point en début de journal. Le Croissant Rouge palestinien veut que lumière soit faite. 15 secouristes manquent à l'appel une semaine après les frappes israéliennes sur des ambulances en mission à Rafah. Également dans ce journal, la composition du nouveau gouvernement syrien. Une femme chrétienne a été nommée aux affaires sociales et au travail. Et puis Justin Welby, l'ancien chef spirituel de l'église anglicane, a pris la parole pour la première fois depuis son retrait. Il est accusé d'avoir couvert un scandale d'abus sexuels au sein de l'institution religieuse. Une aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes après le puissant séisme qui a touché la Birmanie et la Thaïlande. Au moins 1700 morts, 3400 blessés et plus de 300 disparus. Un bilan qui pourrait s'alourdir. La situation est tellement catastrophique que la junte birmane a lancé un appel à l'aide internationale hier. Conséquence, la Chine a envoyé près de 80 secouristes. L'Inde a envoyé un avion d'aide humanitaire chargé d'aide. Eux ont leur visa pour arriver sur place, mais ce n'est pas le cas des pays européens. Pourtant, le temps presse, Pierre-Olivier.
En Allemagne, aux États-Unis, en Russie ou encore en France, des dizaines d'équipes de secouristes sont prêtes à venir en aide à la Birmanie. Problème, depuis 24 heures, Thierry Velu et ses hommes du groupe de secours catastrophe français attendent le feu vert des autorités birmanes.
Bien que l'aide internationale ait été demandée, nous on n'a pas eu les retours d'informations qu'on souhaitait, on n'a pas réussi à joindre les autorités, notamment l'ambassade à Paris est en plus fermé, que ça soit au niveau des visas, au niveau de l'entrée. On n'a aucune information là-dessus et qui prend en charge notre arrivée, qui nous accueillera. On n'a vraiment aucune information, étant donné que à l'heure actuelle, la demande de visa est toujours d'actualité pour se rendre là-bas, équipe de secours ou pas.
Pourtant, les besoins, comme après chaque séisme, sont énormes.
La première recherche de victimes et localisation de victimes en urgence. Il va y avoir des besoins en eau pour le traitement de l'eau, parce que ça doit être un facteur qui a à prendre rapidement en compte. Bien qu'on sache qu'il faut localiser le plus rapidement possible des victimes sous les décombres, on est totalement dans l'incertitude. C'est vraiment compliqué.
Le GSCF espère obtenir ses visas dans les heures qui viennent pour pouvoir acheminer une quinzaine d'hommes et du matériel de recherche et d'écoute.
Et quelques heures après le séisme, 7 rebelles ont été tués dans une frappe de la junte birmane. Depuis, un cessez-le-feu partiel de 2 semaines a été déclaré pour permettre des opérations de secours. Des secouristes toujours, mais cette fois au Proche-Orient, ils sont 15 à manquer à l'appel de la défense civile et du Croissant Rouge. Tandis que cela fait une semaine qu'Israël a ciblé des ambulances en mission à Rafah, le Croissant Rouge palestinien demande que la lumière soit faite sur les événements. Son président a pris la parole ce matin pour tenter d'alerter sur la situation de leur équipe. Correspondance d'Amira Soulem à Ramallah.
Ont-ils été tués ou arrêtés ? Younes El-Khatib, président du Croissant Rouge palestinien, exige de connaître le sort des 15 secouristes disparus à Rafah depuis une semaine.
Nous ne sommes pas des chiffres. Chacun des secouristes a une famille. 9 secouristes du Croissant Rouge manquent à l'appel. 6 membres de la défense civile aussi. En ce jour de l'Aïd, chacun d'entre eux a une famille qui attend sous une tente et elle attend des nouvelles de leurs enfants.
Alors qu'Israël a reconnu avoir tiré sur les ambulances en marge de ce qu'il a présenté comme une opération anti-Hamas, le Croissant Rouge ne cache pas son inquiétude après que les véhicules ont été retrouvés sans leurs occupants.
Nous condamnons les tentatives de faire obstruction aux recherches de la part des forces d'occupation et nous leur faisons porter la responsabilité des vies des secouristes. Il y a 2 possibilités à ce stade. Soit les secouristes sont tombés en martyr comme d'autres de leurs confrères avant eux, soit ils ont été arrêtés.
Le Croissant Rouge palestinien demande désormais à la communauté internationale de faire pression à son tour sur Israël pour obtenir des informations. Amira Suilem, Ramallah. RFI.
Et c'est dans ce contexte que le bureau de Benjamin Netanyahou a annoncé la venue du Premier ministre israélien en Hongrie mercredi prochain. Une visite de 5 jours où il rencontrera Viktor Orban. Et ce alors que la Cour pénale internationale a émis en novembre un mandat d'arrêt à son encontre pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans la bande de Gaza. Les États membres de la CPI dont fait partie la Hongrie sont pourtant tenus d'arrêter Benjamin Netanyahou s'il entre sur leur territoire. Mais Viktor Orban a affirmé que le mandat d'arrêt ne serait pas respecté. Du côté des négociations, le premier ministre israélien appelle le Hamas à déposer les armes et propose l'exil à ses dirigeants. Sur le front, la défense civile palestinienne fait état de 8 morts, dont des enfants, dans une frappe israélienne sur une maison et une tente abritant des déplacés de Khan Younes. L'annonce était attendue depuis près d'un mois. En Syrie, les autorités syriennes ont dévoilé hier soir la composition de leur nouveau gouvernement. Le président par intérim, Ahmad al-Shara, a affirmé sa volonté d'édifier un État fort et stable. Parmi ses nouveaux ministres, de nombreux fidèles d'Ayat Tahrir al-Sham, dont est issu le nouveau pouvoir de Damas. Les précisions de Manon Chaplin.
Et quelques ministres chargés de la gestion des affaires courantes depuis la chute de Bachar al-Assad qui restent en poste. Celui des affaires étrangères, Assad al-Shibani, le ministre de la Défense, ancien cadre de HTS, Mouraf Abou Kassra, ainsi que l'ex-chef des renseignements généraux, Anas Katab, nommé ministre de l'Intérieur. Le président par intérim s'est exprimé tard dans la nuit au palais du peuple de Damas devant une poignée de journalistes et des personnalités syriennes venues de tous horizons. Car quelques semaines après les massacres survenus sur la côte contre la minorité alaouite, le président syrien s'est voulu inclusif. Il compte parmi ses 23 ministres un druze, un kurde, un alaouite et une chrétienne, une femme, Ine Kabawat, ancienne opposante au régime de Bachar al-Assad et co-organisatrice de la conférence de dialogue national fin février. Autre nomination bien reçue parmi la société syrienne, celle de Raed al-Saleh, le chef des casques blancs, secouristes syriens qui ont longtemps œuvré dans les zones rebelles durant la guerre civile. Fait notable, il n'y aura dans ce gouvernement aucun premier ministre. Cela avait déjà été fixé par la déclaration constitutionnelle début mars et renforce les pleins pouvoirs conférés à Ahmad al-Shara, président par intérim jusqu'aux prochaines élections prévues dans 5 ans. Manon Chaplin, Damas, RFI.
Maintenir la pression, faire front commun, c'est ce que souhaite l'opposition turque au lendemain d'une mobilisation massive à Istanbul. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour défendre l'opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan. Ekrem İmamoğlu appelle ce dimanche à l'unité depuis la prison de Silivri, dont où il a été incarcéré le 23 mars. Plusieurs dizaines de journalistes et près de 2000 manifestants ont été arrêtés depuis son arrestation, dont un journaliste suédois. Sa libération est une priorité absolue, déclaration ce dimanche de la ministre suédoise des Affaires étrangères.
RFI.
14h07 à Londres, l'ancien chef spirituel de l'église anglicane prend la parole pour la première fois depuis son retrait. Justin Welby a été poussé à la démission en novembre dernier, accusé d'avoir couvert un scandale d'abus sexuels au sein de l'institution religieuse. Emily Devin, l'ex-archevêque de Canterbury, admet avoir commis des erreurs dans une interview à la BBC.
En 2013, l'église anglicane est avertie des agressions physiques et sexuelles d'un missionnaire, John Smythe, décédé aujourd'hui. Mais son chef, l'archevêque de Canterbury, ne prend alors aucune mesure. 5 mois après la publication d'un rapport et son départ forcé, Justin Welby tente de s'expliquer.
Every day.
Tous les jours, nous recevions de nouvelles affaires d'agression qui n'avaient pas été traitées correctement dans le passé. C'était un nouveau dossier. Cette période était accablante. La vérité, c'est que j'ai fait des erreurs. En tant qu'archevêque, je n'ai aucune excuse. Être submergé est une raison, pas une excuse.
Justin Welby avait prononcé en novembre à la Chambre des Lords un discours de démission truffé de plaisanteries qui avait ulcéré les victimes et qu'il dit regretter aujourd'hui. Il dénonce à l'échelle de la société une culture du jugement.
Il existe une méfiance immense à l'égard des institutions, mais elles sont nécessaires pour la cohésion de la société. Le pardon n'existe pas. Nous ne traitons pas nos dirigeants comme des êtres humains, nous attendons d'eux qu'ils soient parfaits. Si vous souhaitez des dirigeants parfaits, vous n'en aurez aucun.
If you want perfect leaders, you won't have any leaders.
L'Église assure toutes les victimes d'abus sexuels au sein de l'institution de son écoute et de son soutien le plus total. Emeline Varlandre, RFI.
Et puis en France, la visite de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie continue. Le ministre des Outre-mer sur place jusqu'à mardi a remis aux délégations politiques indépendantistes et loyalistes un projet d'accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel, meurtri par les émeutes de 2024. Une réunion plénière est prévue lundi après-midi au Haut Commissariat pour réunir l'ensemble des partenaires autour du projet d'accord et tenter d'avancer vers un compromis. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.